voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Fabienne Servan-Schreiber. Ce soir, Henri le Magnifique.
Bonjour Fabienne Servan-Schreiber.
Bonjour Jérôme Clément.
Alors nous revoici dans votre appartement avec plein de livres, plein de photos, dont beaucoup d'ailleurs illustrent votre vie familiale, si riche et si complexe, dont on a parlé hier, cette bourgeoisie parisienne assez mélangée, dont vous essayez de sortir en 1968.
Exactement.
1968, année de rupture à la fois idéologique et affective. Les deux vont souvent ensemble d'ailleurs. Et on vous a quitté lorsque vous veniez d'épouser Pia Wiazemski, d'une certaine façon en rompant avec le milieu familial. Vous vous retrouvez marié à Pierre Wiazemski. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années post-68 art qui ont beaucoup compté dans votre vie?
Alors ce sont d'abord les années où j'aborde la vie professionnelle, puisque je commence à travailler chez Pathé Cinéma et on habite Pierre et moi à Montmartre et je traverse la butte tous les jours pour lui apporter des barquettes au marron parce qu'il ne se réveille qu'à midi. C'est les années où j'ai la chance de côtoyer sa famille, sa mère extraordinaire qui était Claire Mauriac-Wiazemski, une femme qui s'était engagée dans la Croix-Rouge après la guerre et qui était vraiment hors du commun. C'est les années où j'ai la chance de rencontrer son grand-père, François Mauriac, qui est très émouvant le jour où il me rencontre, puisque nous étions à la campagne, il avait marre dans sa maison, et qui se donne la peine de mettre une cravate pour recevoir la jeune Servan-Schreiber. Et il nous a d'ailleurs figuré comme jeune couple dans son dernier livre, Maltaverne. Et ce sont les années post-68 art, c'est-à-dire la liberté, les fêtes, la jeunesse, la découverte de beaucoup de monde. Pierre m'a appris énormément de choses en cinéma, en musique, et ce sont les années gauchistes. Lui-même, d'ailleurs, il est le beau-frère à l'époque de Jean-Luc Godard. Donc, je continue un peu dans le name-dropping. Et puis, nous militons. Nous sommes de toutes les manifestations. Nous sommes dans le soutien au Chili. Voilà, ce sont des années extrêmement riches sur le plan humain et sur le plan politique.
Mais est-ce que ce ne sont pas, quand on voit les choses a posteriori, évidemment, c'est toujours plus facile. Est-ce que ce ne sont pas un peu des années de transition, finalement, avec Pierre Wiazemski, prince russe, très haut placé dans l'aristocratie russe, vous restez quand même dans ce milieu grand bourgeois, avec aussi des relations, le petit-fils de François Mauriac, etc., etc. Donc c'est une rupture sans en être une. Mais quand même, alors, arrive 73.
Oui.
Et 73, là, c'est la rencontre.
Oui.
La rencontre avec Henri Weber.
Oui. Alors,
Comment ça se passe, cette rencontre?
Ça se passe en juillet 73. Il faut rappeler que le 21 juin 1973, il y a un grand meeting d'ordre nouveau, qui était l'extrême droite de l'époque, qui se tient au Palais des Congrès, qui n'est pas interdit par le gouvernement. Et du coup, la JCR, la Jeunesse Communiste Révolutionnaire, décide d'empêcher la tenue de ce meeting. Et ils descendent à des milliers de jeunes avec des casques et des barres de fer, qu'on voit d'ailleurs dans le film de Romain Goupil, Mourir à 30 ans. Ils descendent pour cogner sur l'extrême droite. Donc toute la nuit, il y a un charivari épouvantable dans Paris, des grandes, grandes bagarres. Et le lendemain, d'ailleurs à juste raison, le gouvernement interdit les deux organisations. Et donc les leaders de ces organisations doivent se cacher pour ne pas être arrêtés par la police. Et parmi ces leaders de l'extrême gauche, de la JCR, il y a un jeune homme qui s'appelle Henri Weber et qui depuis 68 a été un des grands leaders de 68 et a créé la JCR avec Alain Krivine et Daniel Ben Saïd. Et Pierre et moi, dans notre entourage gauchiste, nous sommes amis des frères Rotman, que certains connaissent parce qu'ils font des très beaux films aujourd'hui. Et les frères Rotman disent à Henri Weber et sa femme, bon, arrêtez de vous planquer dans des appartements parisiens, venez profiter d'un beau week-end ensoleillé dans une maison avec piscine à 40 km de Paris. Il se trouve que c'est chez Antoine et Christiane Stern qui sont mes parents. Et je vois arriver un jeune homme à l'époque avec des grands cheveux qui n'ont pas duré trop longtemps, et surtout dont je vois l'aura tout de suite extraordinaire et qui dégage un sentiment de force et de solidité incroyable. C'est comme un rocher, je vois un homme tellement à l'aise, tellement puissant, tellement intelligent, tellement drôle, que voilà, je tombe raide amoureuse. C'est très simple, ça s'appelle un coup de foudre. Je tombe complètement amoureuse de lui. Alors après, la conquête a été plus difficile.
Alors sur la conquête, effectivement, si vous permettez, je vais me reporter au livre que Henri Weber a écrit, publié l'an dernier, enfin il n'y a pas si longtemps, dans lequel il raconte le week-end à Senlis et la suite.
Exact.
En septembre, j'eus la preuve formelle que je n'avais pas laissé notre hôtesse de Senlis tout à fait indifférente. Donc c'est Henri Weber qui parle. Elle ne manquait aucun des cours de formation des militants que je donnais à Jussieu en fin d'après-midi. Les sujets étaient pourtant passablement rébarbatifs. La situation de tous les secteurs de la Révolution mondiale était passée en revue. Trop fine mouche pour s'exhiber au premier rang, Fabienne s'installait sur le dernier gradin, tout en haut de l'amphi, dans une tenue babacool raffinée, sa somptueuse chevelure noire contenue par un bandana rouge. Pour satisfaire ma vanité ou par intérêt véritable, elle prenait frénétiquement des notes. À la fin du débat, elle descendait nonchalamment vers mon estrade pour poser quelques questions. J'eusse vraiment été le dernier des mufles si je ne lui avais pas proposé de prendre un verre et même plusieurs. Alors, on imagine la suite. Et quelques lignes plus tard, Henri écrit « Nous devînmes amants, chacun chez soi dans un premier temps, et sans tirer trop de plans sur la comète. » Mais la passion nous avait saisis. Irrésistible, irrépressible, incontournable. Nous ne pouvions simplement plus nous passer l'un de l'autre. « Tant que tu seras dans mon lit entre 2h et 6h du matin, me disait-elle, je supporterai nos différences. Et pour rien au monde, je n'aurais manqué ce rendez-vous quotidien. J'avais rencontré la reine de Saba, mon idéal féminin, directement sorti des rouleaux de l'Ancien Testament. » D'un naturel optimiste, je me faisais fort de réduire à la longue le fossé psychologique et culturel qui nous séparait.
Oui, il dit même qu'il espère bien qu'avec le temps, il va pouvoir combler mon manque de culture marxiste. Et c'est vrai que, comme j'arrive d'une jeunesse un peu bousculée, un peu fragilisée, je sens dans ce personnage une force dont j'ai besoin. Voilà. Bon, je tombe amoureuse, sauf qu'il est marié, que je suis mariée, et que c'est pas évident. En plus, on est tellement différents. Il est fils d'immigrés juifs à l'extrême gauche, militant depuis sa plus folle jeunesse.
Un milieu très pauvre.
Très, oui, bien sûr, ce sont des immigrés. Il est né au Tadjikistan. Ils sont venus en France. Son papa a été horloger. Ils n'ont pas eu de salle de bain avant l'âge de 12 ans. Bon, enfin, il est aux antipodes de ma vie à moi. Donc, il n'y a aucune raison qu'on se retrouve. Et moi, pour partir à sa conquête, effectivement, j'assiste au cours de formation de la 4e internationale. Je vais à Jussieu, je monte dans les gradins, et puis j'écoute, je prends des notes et j'essaye d'attirer l'attention sur moi. Bon, alors, il se trouve que j'ai fini par le conquérir, mais il m'a fallu beaucoup d'efforts pour y arriver.
C'était plus long que ce qu'il raconte même lui-même.
Ça n'a pas été plus long, mais en tout cas, c'était original. Voilà, c'était original. Ouais.
Et tout de suite, vous avez l'impression que c'est l'homme de votre vie. Que...
Ah, mais moi, c'est l'homme de ma vie. Je savais que c'était l'homme de ma vie avant même qu'il ne me regarde. Et j'avais dit à une amie à moi, si je dois un jour quitter Pierre, ce sera pour Henri. Et Henri ne m'avait jamais adressé la parole, en particulier. C'était comme un espèce d'aimant. Je savais que... Je me devais d'aller de ce côté-là, absolument. Parce qu'il symbolisait pour moi énormément de choses. Donc c'est romanesque, en tout cas, comme histoire.
C'est l'opposé complet de ce que vous étiez et du milieu. Donc,
c'est l'opposé complet. Donc je savais que ça allait formidablement m'apprendre, m'enrichir, me faire vivre des choses. Et c'est vrai que notre histoire d'amour a été surtout au départ une histoire de différence. Nous étions extrêmement différents et nous sommes rejoints.
Et lui, Fabienne Servan-Schreiber, vous sentiez qu'il était dans le même état d'esprit ou c'est venu plus progressivement que vous?
Alors,
parce que vous, on a l'impression que c'est une sorte de coup de foudre.
Ah oui, moi, c'est le coup de foudre absolu. Ça existe, ça hors 5 minutes. Alors après, bon, lui, je sais pas, ça, je pense que ça a mis un petit peu plus de temps, même s'il écrit qu'il a rencontré la reine de Saba, ce qui est très gentil. Mais J'ai vraiment vécu la différence culturelle dans l'amour. C'est intéressant, ça. Parce que vous émettez des signaux vers quelqu'un qui ne les reçoit pas, qui ne les comprend pas. Je quittais un homme qui comprenait quand je clignais de l'œil, et j'allais vers un homme qui ne comprenait rien à ce que j'étais. Parce que c'est vrai qu'on n'avait rien en commun. Ni passé, ni culture, ni vocabulaire, ni expérience. Donc, ça a été difficile. Et j'ai un moment où j'en ai souffert. Je me disais, mais j'y arriverai jamais. Il ne comprend pas qui je suis et je n'y arriverai jamais. Et comme moi, j'étais dans un rapport qui s'appelle la passion, et ça existe, la passion. Tout le monde n'a pas la chance de connaître la passion. Je dis toujours, je me suis tapé la tête contre les murs physiquement. Je l'ai fait parce que je me disais, je n'y arriverai jamais. Bon, il se trouve que j'y suis arrivée et qu'après, on a eu une très, très belle histoire. Mais en tout cas, c'était aussi ça la différence au début de notre histoire d'amour.
Et l'aspect politique ?
Mais moi, comme j'étais devenue gauchiste, j'étais ravie de côtoyer un grand chef trotskiste.
Oui, vous étiez devenue gauchiste avec un engagement réfléchi.
Bien sûr. Non, mais quand j'ai dit qu'en 68, on a adhéré au mouvement, c'est qu'on était de toutes les manifestations avec Pierre, de toutes les manifestations, de tous les mouvements féministes. Oui. Et puis, il y a eu, en 73, le coup d'État chilien, où on a énormément donné. Il se trouve que moi, j'avais été au Chili en 72, donc j'avais des amis chiliens, donc on s'était forcé de les faire venir en France. J'ai organisé des systèmes de solidarité, on était dans toutes les manifs. On était vraiment convaincus que c'était de cette manière-là que le monde allait changer, en tout cas à cette époque-là.
Oui, donc les cinq années entre 68 et 73, c'était des années de formation politique aussi.
Absolument. Des années de partage avec Pierre Wiazemski et tous ses amis communs, que nous avons d'ailleurs gardés, de ces grandes années où on avait l'espoir que la société changerait à travers des modes et des idéologies qui finalement sont complètement tombées à l'eau.
Donc vous étiez prête en 73, quand vous l'avez rencontrée, vous étiez en fait mûre pour tomber amoureuse, red dingue d'un grand leader politique de gauche.
Absolument.
D'extrême gauche.
D'extrême gauche.
Alors après ça, donc effectivement, a commencé votre vie commune, votre longue histoire d'amour. Et vous avez assez vite, avec lui, formé un couple, mais un de ces couples dont on parle toujours en associant les deux prénoms. Fabienne et Henri sont là, Fabienne et Henri, etc. Et donc, comment ça se constitue et comment ça se vit, ça ? C'est conscient ou c'est juste... Le temps et les circonstances qui font ça, ou très vite vous avez décidé de...
Non, c'est tout à fait conscient. D'abord, moi, je suis une très grande amoureuse et j'ai adoré cet homme-là. En plus, c'était pas n'importe qui. Henri était une très brillante intelligence, une culture immense, un homme complètement engagé et toute sa vie, il a essayé d'améliorer notre monde. Donc, c'était un grand intellectuel. Moi, quand je suis rentrée dans sa vie, venait dîner à la maison, Poulanzas, Blandine Barret-Kriegel, Alexandre Adler, Glucksmann. Enfin, voilà, on était dans ce milieu très intellectuel. Mais il avait la particularité, pour un homme intellectuel, d'aimer la vie. Voilà, il aimait la bouffe, il aimait l'amour, il aimait la fête. Il était extrêmement vivant. Et c'est assez rare, parce que souvent les intellectuels sont un petit peu sérieux, voilà, pour dire les choses rapidement. Donc c'était un homme absolument complet.
Il aimait rire et danser.
Et il était extrêmement drôle, donc je me suis marrée tous les jours de ma vie, voilà, tous les jours de ma vie. Et d'ailleurs, il me disait, « Ah, ma petite poule, tu te seras bien marrée avec moi !» Et il nous a fait tous rigoler, mais d'ailleurs tous les témoignages après sa mort l'ont évoqué. Il avait un sens de l'humour inimaginable, tout le milieu politique le savait très bien, et il y a des tas d'émissions de télévision qui le racontent et qui le disent. Donc bon, moi j'étais épatée par ce type, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et je pense que l'amour, c'est l'amour et l'admiration. Et je dis toujours que j'avais vu toute petite fille une émission à la télévision où il y avait Simone Signoret qui parlait de Yves Montand. Moi, j'étais toute petite. Et elle dit, il m'épate. Je m'étais dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on dit ça d'un homme? Et en fait, Henri m'a épatée. C'est-à-dire qu'en 47 ans de vie commune, vous avez quand même beaucoup de moments dans la vie où il y a des obstacles, où il y a des difficultés, où il y a des malheurs, où il y a des conflits extérieurs, et vous vous dites, est-ce qu'il va me décevoir? On se dit ça. Est-ce que là, il va pas réagir de travers? Est-ce qu'il va me décevoir? Et je vous jure qu'il ne m'a jamais déçu. C'est quand même un privilège absolu. C'est extraordinaire. Donc effectivement, c'est une très forte histoire d'amour.
Tout en étant un bon vivant. Vous étiez une grande vivante et lui un bon vivant.
Ah oui. Et d'ailleurs, il a élevé nos enfants. Ils l'ont dit lorsque nous l'avons enterré provisoirement dans le petit village du Sud, qui ont dit « l'idéologie familiale, c'est lot of work, lot of fun ». On travaille beaucoup, mais on s'amuse beaucoup. Ça, c'était son rapport au monde. C'est quand même extrêmement enrichissant.
Alors, il disait aussi « la caravane Weber ne s'arrête jamais ».
Oui.
C'est-à-dire qu'il était toujours en mouvement, toujours avide de voyages...
De bouquins,
de
curiosités.
De livres. Quand on voit sa bibliothèque ici, on voit qu'il y en a absolument partout.
Oui.
Beaucoup de photos d'ailleurs de lui en train de lire.
Ah oui, ça j'en ai dans toutes les positions.
Une grande curiosité. Mais alors, c'est-à-dire cette vie, vous avez mené une vie avec lui trépidante quoi, pendant...
Je vous raconte juste, j'ai une photo de lui un été où on a traversé au-dessus de Chamonix la vallée de je ne sais quoi pour aller jusqu'en Italie. On est tout en haut des montagnes et il y a une photo de lui qui lit le livre qui s'appelle « Le capitalisme est en train de s'autodétruire ». Alors évidemment, j'ai pris mon appareil photo. Donc il ne pouvait pas vivre sans un livre à la main. D'ailleurs, il disait « Le bonheur pour moi, c'est un beau paysage, un bon livre et une belle femme ». Voilà. Et il a toujours eu ça.
Vous aviez quand même des activités, des origines sociales différentes, et tout ça s'est progressivement mélangé. Vous avez fait un parcours...
Tout ça s'est formidablement mélangé, mais c'est vrai aussi qu'il m'a beaucoup appris, parce que dans ce milieu intellectuel que j'évoquais, il y avait donc Régis Debray, il y avait plein de gens comme ça formidables, évidemment Daniel Ben Saïd et autres. Moi, j'étais terrorisée à table, enfin je disais rien, j'étais pas terrorisée, c'était intimidé. Bon, je n'avais pas lu beaucoup. Et Henri, le lendemain matin, me disait « Mais tu n'as encore rien dit hier. » Alors je disais « Mais écoute, vous parlez de Hannah Arendt, vous parlez de Karl Marx, moi j'ai pas lu tout ça. » Et il me dit « Mais tu peux quand même avoir une opinion dans un débat, tu peux prendre la parole. » Donc il m'a un peu sculptée comme ça, en me faisant perdre mes complexes, car j'avais ces complexes de pas avoir été assez cultivée, de pas avoir fait assez d'études, de pas être une intellectuelle, que d'ailleurs j'ai jamais été et que je ne serai jamais. Donc on s'est mélangé, moi j'ai rencontré ses amis, on s'est fait plein d'amis communs aussi, et puis je l'ai emmené aussi dans ma famille, dans mon milieu, et puis on...
Oui, et comment ça se passait avec la famille, la vôtre, par rapport à l'idée du beau mariage dont vous nous avez parlé hier?
Ah, ça c'était raté, le beau mariage était raté.
C'était pas vraiment ce que souhaitait votre mère.
Non, le beau mariage était raté, mais comme Henri était extrêmement intelligent et drôle, il a été tout à fait apprécié tout de suite, donc ça s'est très bien passé.
Il n'y a pas eu de rejet, il n'y a pas eu de
coupure. Non, pas du tout. De temps en temps, il y a eu une petite phrase stupide, mais je ne les dirai pas.
Et vous avez eu conscience, Fabienne Servan-Schreiber, d'incarner, on peut dire, un couple mythique?
Non, mais j'ai eu conscience qu'on a eu une très belle histoire, oui, c'est vrai. Et en plus, on préparait le troisième âge, on en parlait souvent, on se disait très souvent, mais comment ça va être quand on sera plus âgé, mais comment ça va se passer? On préparait les choses. Par la parole, le dialogue, et mais voilà, c'était bien. On était bien ensemble jusqu'au dernier jour.
Et c'est là qu'il vous a dit aussi, ma chère Fabienne, tu n'as encore rien vu.
Alors ça, il me l'a dit très tôt, parce qu'un jour, je lui disais, oh, qu'est-ce que je suis contente, je suis bien avec toi, je suis amoureuse, ou enfin des mots gentils, comme on se dit, j'espère, dans un couple. Il m'a dit, mais tu n'as encore rien vu. Alors je me suis dit, mais à quoi il fait allusion, de quoi il me parle? Et il m'a dit, mais tu n'as encore rien vu, parce que plus nous allons vieillir, et plus ce sera formidable. Et plus nous nous aimerons, et plus ce sera profond. Ah oh ! Mais je lui ai dit, mais comment tu sais ces choses-là ? Comme s'il avait déjà vécu avant. Il m'a dit, mais je sais ça, parce que je sais beaucoup de choses. Et c'était vrai. Mais ça, c'était au bout de quoi ? De dizaines d'années de vie commune. On a passé 47 ans ensemble. Et en fait, c'était une prophétie, parce que... C'est vrai que l'amour s'approfondit. En tout cas, moi, j'ai eu la chance de vivre ça. Alors, en même temps, on l'a construit, parce qu'un couple, c'est un travail. Il s'agit pas de se laisser aller. Il s'agit d'être à la fois indépendant. C'est pour ça que quand les femmes travaillent, c'est beaucoup mieux. Elles sont indépendantes. Elles ont leurs copains. Elles ont leur vie. Elles racontent des choses de soi. Chacun respecte le territoire de l'autre. Et puis, on en mélangeait évidemment beaucoup. Mais j'ai toujours dit, un couple, c'est un travail quotidien. Voilà, ne pas se laisser aller, pas tomber dans l'espèce de conjugalité facile, sans effort, se raconter beaucoup de choses. Et c'est vrai que, bon, voilà, un déjeuner ou un dîner avec lui, comme il avait lu 25 bouquins et toute la presse, il racontait plein de choses. Et vous étiez trop content d'entendre tout ça.
Dites-moi, Fabienne Servan-Schreiber, dans toute cette période extraordinaire quoi, de votre vie de couple, formation et vie de couple, vous êtes chacun dans une activité professionnelle. On parlera de la vôtre demain dans votre carrière de productrice audiovisuelle et de grande femme de télévision, qui s'est construite peu à peu. Mais Henri, de son côté, on connaît le héros de mai 68 avec Alain Krivine et Daniel Cohn-Bendit, etc. Mais lui, il a une évolution dans laquelle vous l'accompagnez. Vous pouvez nous en parler un peu? Comment vous vivez cette évolution finalement du révolutionnaire trotskiste? Je n'irai pas dire au notable social-démocrate, mais enfin en tout cas...
Au
réformiste qui a accompagné toutes ces années de couple aussi.
Oui, donc lui... Dans les années 76-77, il se rend compte, il réfléchit, il voit que...
Vous connaissez depuis 4 ans.
On est ensemble depuis 3 ans, oui. 4 ans. Et il se rend compte que finalement, il s'est trompé dans l'analyse du monde et de ses évolutions possibles. Et comme il l'a d'ailleurs dit, il a rompu avec l'utopie chimérique du communisme et il est allé vers l'utopie réaliste du socialisme démocratique. Voilà, il ne veut jamais abandonner le combat de la gauche, la volonté de changer le monde vers un monde meilleur, mais il abandonne l'idée du meilleur des mondes qui est complètement utopique. Et donc, il va d'abord faire des années de recherche dans un institut de recherche, il va aller d'abord travailler l'austro-marxisme pour se faire là aussi une nouvelle vision du monde. Après, il va faire un bouquin très important sur le patronat français pour étudier la droite française. Et après, il va rentrer au Parti socialiste, je crois en 86, quand le parti va très mal. Il aime bien rentrer dans les endroits quand ça va mal. En se rapprochant de Laurent Fabius, qu'il considère comme un homme d'État et une brillante intelligence, et il va rentrer dans le Parti socialiste où il va rester 30 ans.
Et pendant ce temps-là, il écrit toujours, il écrit des livres, alors, parce qu'il a publié un nombre de livres impressionnants, des livres politiques, sauf le dernier, qui est un livre autobiographique, mais...
Alors, la particularité d'Henri, c'est que c'est un intellectuel tombé à un politique, et un politique est un intellectuel.
Il aurait dit un intellectuel organique, au sens gramscien du terme.
Exactement, ce qui est assez rare. Donc effectivement, à la fois, il a été maire adjoint de Saint-Denis pendant des années, puis sénateur, il a fait 2 mandats, puis député européen. Donc il avait à la fois, j'allais dire, les mains dans le cambouis, pour parler vulgairement, et en même temps, il réfléchissait, il dirigeait la revue socialiste, il participait à de nombreux débats, et il a fait tous ses livres, qui sont toujours une réflexion sur le monde actuel et comment... changer le monde vers plus de justice, plus d'égalité et vers toutes les valeurs que porte la gauche.
Oui, en fait, c'est un théoricien du réformisme. Il aimait beaucoup Kautsky, il était aussi extrêmement engagé dans tous les mouvements internationaux, l'international socialiste.
Exactement.
Vous l'avez suivi dans tous ces voyages, dans tous ces...
J'ai suivi dans les premières années, dans les années 75, 76, 74.
Quoi, le Chili, le Portugal.
Le Nicaragua. Le Portugal, l'Italie, oui, beaucoup. Il a beaucoup voyagé.
À chaque fois, c'était pour des congrès, des
colloques,
des colloques.
Avec la gauche, l'extrême gauche, tout le monde.
Et l'international socialiste de cette époque, qui était dominante en Europe.
Absolument.
Et jouait un rôle clé par rapport aux luttes d'Amérique latine ou d'autres pays. Et lui, dès qu'il y avait cette cause à défendre, il y allait.
Il y allait.
Et vous aussi?
Oui. Alors, quelquefois, il est venu, lui, sur mes tournages, parce que le Nicaragua, c'est un film, oui, que j'ai fait sur la bataille de l'alphabétisation. Il est venu, il en a profité pour faire un livre. Donc, on se mélangeait par moments pour être ensemble.
Tout en faisant des films, quoi. Donc,
exactement. Alors, de mon côté, je faisais des films, d'abord comme réalisatrice, ensuite comme productrice.
Mais alors, dans cette période, bon, il s'est engagé au Parti Socialiste après avoir été un des fondateurs et des leaders de la... gauche révolutionnaire, de la Ligue communiste, mais il était trotskiste au départ.
Oui, mais il l'a laissé tomber.
Il l'a laissé tomber,
bien sûr.
Et vous l'avez suivi dans,
oui,
toutes ces évolutions? Trotskisme, gauchisme, parti
socialiste. Oui, mais si vous voulez, j'étais moins pointue. J'ai jamais lu beaucoup de choses, à part la biographie, oui, de Trotsky. Donc effectivement, je l'ai suivi, contrairement à des mauvaises langues qui disent que c'est moi qui l'ai entraîné vers le réformisme, non. Ce qui est une stupidité absolue.
Parce que c'est lui qui l'a décidé.
Mais bien sûr.
Et complètement.
Et en fondant ses choix sur des analyses politiques précises et structurées.
Et vous avez voulu l'accompagner dans tous ses mandats, femme de sénateur, femme de député européen, militante socialiste.
On est allé à Dieppe presque tous les week-ends pendant 10 ans avec les enfants qui étaient petits. Moi, je conduis, donc je faisais la chauffeuse de monsieur.
D'accord.
Je l'ai accompagné un maximum partout.
Ouais. Donc cette vie de couple dont on a parlé tout à l'heure, elle n'était pas dans les nuages. Elle était dans la réalité de la vie quotidienne et de vos engagements à la fois professionnels et politiques.
Dans le maximum de partage. Et effectivement,
de partage.
Je lui avais dit très jeune, ma seule exigence, c'est que tu sois dans mon lit entre 2h et 6h du matin. Et ça, il l'a tenu très longtemps.
4 heures, c'est...
Le minimum.
Alors une solide nature.
Hein. Non, mais c'est parce que quand il était gauchiste, il avait des meetings jusqu'à 1h et qu'il allait distribuer les tracts à 6h. Alors je ne le voyais pas beaucoup. Mais ça s'est calmé par la suite.
Bon, je vous propose pour terminer cette émission, qui est aussi un hommage à Henri Weber, de l'écouter lui dans une émission qu'il a faite sur France Culture avec Alain Finkielkraut dans un dialogue avec Régis Debray, et il s'adresse à la jeunesse.
En l'exhortant à continuer toujours d'être vigilant et de combattre, constructif et positif, toujours.
Vous, Henri Weber, où en êtes-vous des conseils, si vous voulez, à vos enfants ou disons à la génération qui suit ?
D'abord, je leur dis qu'ils vivent une époque formidable. Aujourd'hui, ils vivent une triple révolution, une révolution numérique, digitale, enfin bref. Donc, ils profitent de leur chance, ce qu'ils font d'ailleurs. Le legs que je leur transmets, c'est de rester mobilisés et investis dans la société, de ne pas se replier sous leur tente, de ne pas devenir donc des individualistes tocqueviliens, et de défendre, consolider, approfondir, étendre la démocratie. Pour moi, la démocratie, telle que nous l'avons développée en Occident, c'est la véritable idée, inspiration subversive de l'Occident. Parce qu'elle attaque toutes les formes de discrimination et toutes les formes d'inégalité, avec des excès. Mais fondamentalement, ça fait plusieurs siècles que ce processus dure, c'est la grande tendance dont le socialisme a été la pointe effilée. C'est un mouvement qui est aujourd'hui mis en péril en raison des difficultés du nouveau monde. Et il faut se mobiliser pour défendre nos démocraties. Et à mon sens, on ne peut le faire qu'au niveau continental. C'est là le niveau pertinent. Et lutter pour une démocratie accomplie, qui soit donc non seulement politique, sociale, mais aussi participative, comme on dit, active, une société mobilisée. Lutter pour une économie maîtrisée et lutter surtout pour une autre civilisation. Moi, je n'ai pas renoncé à l'utopie de la société désirable, de l'alternative. Ce n'est plus le meilleur des mondes, mais c'est un monde meilleur. Et le monde peut être formidablement amélioré, et c'est ce que je leur demande de faire.
Merci Fabienne Servan-Schreiber. Et à demain.
À demain, merci Jérôme.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Fabienne Servan-Schreiber. À voix nue, réalisation Vincent Deck, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.